L'œuf et la poule, Olivier Horry.
Bienvenue dans l'œuf et la poule, un moment de philosophie, c'est la conversation philosophique avec mon interlocutrice habituelle, Odile Autry, sur un sujet que nous avons ce mois-ci, encore une fois, choisi, l'histoire.
Bonjour Olivier.
Bonjour Odile.
Alors, l'histoire, la petite ou la grande, comment on peut essayer de cerner un petit peu le sujet ? Qu'est-ce qui va concerner l'humain ? Est-ce qu'on commence avant ? Est-ce qu'on commence à l'humain ?
Oui, on pourrait déjà distinguer l'histoire qu'on peut peut-être écrire avec un H majuscule qu'évidemment on ne passe pas à la radio, et ça serait l'ensemble des événements. Et puis l'histoire avec un H minuscule qui serait le récit de ces événements par des historiens. Alors, concernant les événements eux-mêmes, effectivement, je pense qu'il est prudent, d'un point de vue méthodologique, de séparer les événements humains de ce qui les précède. C'est-à-dire, dans le temps, avant ces événements humains qui constituent l'histoire, avec un grand H, il y a la formation de l'univers, qui est décrite, cette formation, par les astrophysiciens. C'est l'hypothèse du Big Bang, c'est l'hypothèse d'une expansion de l'univers, etc. Des hypothèses, hein, naturellement. Et puis, succédant à cette évolution astrophysique de l'énergie et de la matière, il y a l'apparition du vivant et l'évolution des espèces. Et pour mieux prendre en compte, dans sa spécificité, c'est le cas de le dire, l'espèce humaine, eh bien... on va la considérer non pas tant comme une forme parmi les autres de vivant, mais on va l'isoler un petit peu. Enfin, on en a déjà parlé, hein, l'homme et la nature, oui. L'homme et l'animal, l'homme et le langage. On va un petit peu l'isoler, mais comme espèce, hein, justement. Et puis, avec l'apparition du langage, avec l'apparition de l'anticipation du projet psychologique, etc., on va considérer qu'on a affaire à une espèce qui mérite que ce qu'elle va faire prenne le nom d'histoire. Voilà. Donc, l'ensemble des événements humains du passé, c'est ce qui va être l'histoire. Mais alors, on considère tout, hein, les grands événements célèbres, hein, les batailles, les traités, les successions de dynasties, de républiques, les grands événements, et puis la civilisation matérielle. D'ailleurs, les premières périodes portent de l'histoire de l'humanité, portent des noms techniques. Hein. C'est la pierre taillée, c'est la pierre polie, c'est le cuivre, c'est le bronze, enfin, etc. Donc, effectivement, des artefacts, hein, c'est ce qui va signer l'histoire, c'est-à-dire cette somme d'événements humains, quoi.
Alors oui, et donc on va être obligé de s'appuyer sur des éléments matériels pour pouvoir caractériser, comprendre, établir une chronologie, même si elle peut être un peu chahutée plus tard. Et donc ça pose la question de la fiabilité de ce qu'on a pu trouver, la proportion des objets ou des traces trouvées par rapport à la population probable à ce moment-là.
Ouais.
Est-ce que ça nous permet de tirer des conclusions ? Est-ce que on est un peu dans l'extrapolation ?
Oui, ah oui, oui. Alors ça permet de compléter notre lexique. C'est parce que l'histoire avec une majuscule, ce sont les événements. L'histoire avec une minuscule, c'est l'historiographie, bien sûr. Et puis ce que vous pointez là, Odile, c'est le fait que c'est le risque. Que quand on écrit l'histoire, on raconte des histoires. Hein. Ça, souvent, on prend le pluriel pour dire que c'est un peu fictif, c'est un peu inventé, ça nous arrange ou pas. Et donc, effectivement, se pose la question de la méthode historique. C'est pas pour rien, d'ailleurs, il faut le rappeler, que le mot historia en grec, hein, si on traduisait littéralement, historia, c'est l'enquête. Un historien est un enquêteur qui doit effectivement rassembler des éléments matériels, travail de l'archéologue, des éléments d'écriture, c'est le travail du philologue, d'une certaine manière, gens qui font des collections de textes, soit des textes littéraires, soit des textes administratifs, hein, toute espèce de textes. Et évidemment, se pose la question de la fiabilité. Bien évidemment, plus on recule dans le temps, plus les traces deviennent rares. Il y a beaucoup de destructions au cours de l'histoire. Il y a beaucoup d'enterrements. Hein. Fouiller en archéologie, c'est creuser. Hein. Plus on descend les couches successives. Donc évidemment, on sent bien que... Alors le gros problème, je pense, dans la culture générale, c'est que souvent, on tient... l'absence de preuve pour une preuve d'absence. Souvent, on se dit, j'ai pas trouvé de reste de quelque chose, donc il n'y avait pas. Évidemment, ça, c'est l'erreur principale. Et elle signale quoi ? En général, un terrible manque de modestie. Je crois qu'il faut, qu'en histoire comme en philosophie, il faut admettre que, faute d'éléments matériels fiables, ceux dont vous parlez, eh bien, il faut accepter de dire qu'on ne sait pas.
Voilà, il y a une lacune, là, on ne peut pas savoir. Donc, ça suppose de rester très près du terrain quand même, de la recherche matérielle, si on peut dire. Et c'est là où on perçoit le mieux, finalement, des fois les incohérences ou le besoin de chercher dans une autre direction.
Complètement. Cette notion d'incohérence... Elle est précieuse parce qu'elle appartient à la méthode même de l'historiographe, de l'historien. C'est-à-dire que quand deux sources opposées, d'un point de vue moral, spirituel, politique, disent la même chose sur un événement, alors on peut supposer que cet événement, il a bien eu lieu comme il est décrit. Autrement, effectivement, les incohérences, eh ben, elles restent des incohérences et elles sont une occasion supplémentaire pour se dire que ben, on ne sait pas bien, quoi. Alors, c'était Paolo Fresu. J'étais un petit peu en perdition dans I Fall in Love Too Easily.
RCF, Olivier Horry.
La conversation philosophique avec Odile Autré sur l'histoire, et nous poursuivons avec peut-être un questionnement sur les raisons pour lesquelles on écrit l'histoire, je ne sais pas.
Oui, et est-ce que ça dépend aussi un petit peu de qui raconte cette histoire ? Une fois les recherches faites, une fois les informations recueillies, les informations de terrain, on va dire, il s'agit de recoudre tout ça. Et est-ce que les personnes qui se chargent de ça risquent pas d'être sensibles à ce qu'elles transmettent ? Comment on peut transmettre objectivement
Je crois que c'est d'autant plus préoccupant, cette position de l'historien, qu'elle touche de près ou de loin la question de l'identité, et en particulier de l'identité collective. Je serais assez tenté de... C'est peut-être pas très rigoureux d'un point de vue méthodologique, mais c'est assez tentant de faire un parallèle entre la quête d'identité personnelle, individuelle, et la quête d'identité collective. Alors, dans une quête d'identité personnelle, on sait très bien que nous avons des souvenirs, mais nous avons aussi des souvenirs que nous refabriquons, que nous relisons, pas forcément d'ailleurs dans un sens tellement favorable à nous, hein, mais il y a transformation, métamorphose du passé dans notre esprit. Et ce récit global que nous faisons de notre existence, il sert à nous définir et à nous poser dans notre rapport avec les autres. Et il est évident que ce récit biographique, il est plus ou moins juste, il est plus ou moins favorable, mais surtout, plus ou moins objectif. Et naturellement, un historien qui a... Il a une position sociale, il a une fonction sociale, l'historien. Et il va être à l'université, il va être dans les grandes écoles, il va être dans les centres régionaux d'archéologie, etc. Il va être donc dans des positions. Et effectivement, on peut le suspecter d'écrire l'histoire de la collectivité dans laquelle il vit. Pour en constituer l'identité, constituer l'identité de la collectivité pour laquelle il écrit. Et puis, on peut penser que cette histoire, elle sera vraisemblablement plutôt plus favorable à la collectivité pour laquelle il écrit, quoi. Enfin, ça paraît assez logique. On a connu ça, hein, on voit même ça en permanence, hein, une écriture de l'histoire où on va mettre, je sais pas, on écrit l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en France. Et on va mettre en avant la résistance, on va mettre en avant la déportation, mais on va la mettre peut-être au crédit, si je puis dire, ou au débit des SS, des nazis, plutôt que de la police française. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut, oui. Quand on raconte l'histoire, évidemment, on l'arrange au sens d'un arrangement musical, hein, presque. On l'arrange, comme on dit, l'histoire, elle est en général racontée par les vainqueurs. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'on constate quand on fête le 8 mai la victoire.
Oui, il y a je suppose que c'est un petit peu partout pareil. Il y a quelques omissions qui arrangent bien. Ça permet de constituer une identité. Ça permet peut-être, le but étant probablement de tenir une assemblée, quoi, d'avoir la même histoire, ça fait un partage, ça donne une direction commune. Après, normalement, les historiens, enfin comme tout le monde, il y a une exigence de se tenir au plus près de la réalité. Certainement que personnellement, ils peuvent voir les choses un peu différemment, mais il y a des faits tout de même.
C'est toute la marge de manœuvre possible ou pas. On sait quand même, toutefois, qu'en matière de révision du passé, de la lecture du passé, voire de négation, on peut aller quand même très très loin. Je veux dire qu'il y a quand même des histoires qui s'écrivent en dépit de l'évidence d'un certain nombre de faits. On le voit naturellement. Il y a un exemple qui est assez frappant, c'est la question de la décolonisation, qui, de toutes parts, de la part des anciens colons comme de la part des anciens colonisés, il y a production de récits contradictoires, souvent en dépit d'un certain nombre d'événements par ailleurs normalement évidents et inévitables. Donc, effectivement, on a quand même on est en droit de s'inquiéter fortement de la valeur du récit historique. Et là, il est prudent pour tous nos auditeurs d'être extrêmement prudent, voire, je dirais, plus que prudent, exigeant, quoi, dans la qualité des sources historiques, surtout aujourd'hui, avec les possibilités de fabrication de fausses images et de faux textes avec les intelligences artificielles, etc. On peut assez facilement produire l'illusion d'un passé qui n'a absolument pas existé.
Oui, mais là, ça suppose qu'on ait un projet. Enfin, je veux dire, quand on en est à créer ou à omettre sciemment ou à créer des événements qui n'ont pas eu lieu ou à modifier le cours des choses, ça veut dire qu'on a un projet et qu'on a l'intention de modifier l'identité dans ce cas-là. Dès que ça touche à s'il y a un lien entre l'histoire et l'identité d'un peuple ou d'une nation, eh ben, c'est qu'on songe à toucher à son identité. Donc on touche à quand même quelque chose de vaste et de dangereux en même temps.
D'extrêmement dangereux. Alors effectivement, ça peut être la négation ou la révision du passé d'une collectivité. Ça peut être, comme vous le soulignez, l'effet d'un projet avéré. Bon, on en connaît des exemples. Il n'est pas certain que... Enfin, c'était une spécialité de l'Empire chinois, des empires chinois, de réécrire leur histoire à chaque nouvelle dynastie. Voilà. Bon, j'évite de prendre des exemples contemporains parce que ça pourrait froisser, si vous voulez. Mais la possibilité de réécrire l'histoire au fur et à mesure et de faire de la réécriture de l'histoire le premier projet politique, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a possibilité pour tout un chacun de s'aliéner à un récit un peu sans le savoir. C'est-à-dire on va s'identifier soi-même, on va se transformer soi-même en un personnage de cette histoire écrite ou réécrite en toute bonne foi d'une certaine manière. Hein, c'est-à-dire qu'on va véritablement penser que la France est le pays des droits de l'homme. Et ça va être, c'est une description de l'identité collective française dont beaucoup de Français aiment bien se faire une partie, vous voyez, de voilà, et dont on sait qu'il y aurait certainement beaucoup à nuancer.
Voilà, ceci dit, on peut considérer ça comme bien confortable, comme identité. Mais par contre, ce serait supposé donner des devoirs dans ce cas-là.
Complètement.
Et là, ça devient plus complexe.
Oui, c'est effectivement plus complexe. Le devoir de mémoire n'est pas simplement un devoir de bon citoyen. Ça doit être aussi un devoir un peu d'historien.
Thank you.
Gustavo Santaolalla, c'est Alma. C'est la conversation philosophique de l'œuf et la poule sur l'histoire et nous nous interrogeons effectivement sur l'écriture de l'histoire et ses fautes possibles.
Oui, ses fautes possibles, ses omissions, ses dérapages plus ou moins orientés. Et donc ça pose aussi après la question de l'identification et aussi du coup des devoirs que ça crée, Et éventuellement de la transmission de cette mémoire.
Ouais.
La transmission, et est-ce que cette transmission, elle est obligée de passer par des rapports et des exposés? Est-ce qu'elle ne peut pas passer aussi par le roman ou par l'art sous une forme ou une autre?
Oui, oui, alors là, Odile, vous ouvrez des chantiers colossaux. Oui, oui, je vois. Oui, c'est effectivement, bon, le devoir de mémoire dont on use les antennes et les pages de la presse écrite, le devoir de mémoire, évidemment, je ne crois pas qu'il puisse consister seulement en une présence sur la place publique le 11 novembre, le 8 mai, 14 juillet. Effectivement, le devoir de mémoire, c'est aussi un devoir de connaissance de ce passé, avec effectivement une connaissance des erreurs et des fautes qui ont été commises par les individus dans une collectivité. Ça paraît essentiel, sans pour autant que l'écriture de l'histoire, ça c'est évidemment à l'opposé, quoi. Il faut pas que l'écriture de l'histoire tourne au confessionnal et tourne à l'espèce de mea culpa généralisé sur ce qui serait une autre révision finalement, une autre révision. Donc il y a une mesure à trouver. Et cette mesure, finalement, elle consiste pour chacun d'entre nous, je crois, de se faire autant qu'il le peut lui-même historien. Hein, on l'a un petit peu évoqué précédemment. Effectivement, il faut aller aux sources. Il faut le plus possible se rapprocher des traces archéologiques qui existent, des textes qui existent. Alors ça, pratiquement, c'est quand même une des missions principales de l'école, du collège, du lycée, de l'université, être ce lieu de transmission, je dirais pas d'une vérité historique, ce serait beaucoup dire, mais d'un état de la recherche historique.
Oui, à un moment donné.
À un moment donné,
ça peut toujours être revu par d'autres découvertes ou d'autres remises en place des chronologies, ça.
Complètement. Et c'est ça, c'est cette idée, effectivement, que l'histoire, ben c'est un peu comme la philosophie en fait. Hein. C'est un travail permanent. Autant le philosophe est à la recherche permanente de ce qui est vrai universellement, sachant qu'il va avoir bien du mal à le saisir. Autant l'historien, il est à la recherche interminable de ce qui s'est passé singulièrement à tel moment, à tel endroit. Donc effectivement, c'est un devoir de travail inexorable, d'une certaine manière. Alors, vous l'évoquez, est-ce que cette transmission peut se faire par d'autres moyens que des moyens didactiques, scolaires, universitaires? Certainement que le roman historique, qui a d'ailleurs beaucoup de succès, hein, le docu-fiction est un genre cinématographique qui a énormément de succès, les biopics, il en sort pratiquement chaque semaine sur nos écrans, des biopics. Alors, et évidemment que on a envie de dire, tant mieux, parce que ça permet justement de constituer cette identité collective dans laquelle, finalement, c'est travailler au vivre ensemble que de se créer une mémoire commune sur le plan artistique, politique, etc. Bon, bien sûr, mais je crois qu'on l'a assez vu. On voit les dangers qui sont jamais bien loin. Encore une fois, dans le roman historique, le docu-fiction, le biopic, la révision, voire la négation historique, elle est jamais bien loin. Et quand on connaît un petit peu de manière universitaire tel moment historique et qu'on en voit la retranscription dans tel biopic ou dans tel film historique, on est un peu parfois glacé par le peu de rigueur et de culture qui se trouve là exposée, quoi.
Oui, en fait, il y a une question de rigueur aussi dans ce travail-là. Parce que, c'est, oui, effectivement, au bout, c'est les dangers, pas nécessairement d'une manipulation volontaire, mais enfin, c'est d'introduire des notions fausses qui conduisent à des conclusions fausses.
Complètement, et je crois qu'on peut finir sur cette idée que les événements humains du passé, nous avons besoin de nous en faire une idée, mais que quand nous nous en faisons une idée, ben, y a une exigence éthique de rigueur, je crois, qui est indiscutable. Voilà, il est venu le temps de nous séparer. Nous avons entendu The Paolo Fresu Quartet, I Fall in Love Too Easily, l'album Angel 1998, et puis Gustavo Santa Olaya Alma de l'album Camino 2014. La musique était choisie, et je l'en remercie, par Landy Unger. Il me reste à remercier Odile Autré, qui m'a fort gentiment accompagné dans cette recherche philosophique. Il me reste à remercier enfin Vincent, qui réalise tout ça. Ciao, ciao. Thank you.